Ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Tout de suite, Michael Ponge pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Léa, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. Sans rancœur ni complaisance, la parole à un ex-otage. Dans un instant, le témoignage de l'un des religieux enlevés et relâchés le mois dernier en Haïti. Aux États-Unis, les républicains scellent leur avenir dans les pas de Donald Trump. Les Colombiens, de nouveau appelés à la grève. On sera à Cuba aussi quand les femmes font entendre leur voix. Et dans 15 minutes, Benoît Ferrand, le journal de la première avec vous. On sera en Guyane.
Oui, avec les 35 membres du service de santé des armées qui sont à pied d'œuvre depuis vendredi dernier.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Cela fait plus de 35 ans qu'il vit en Haïti et il ne compte pas faire ses valises malgré l'expérience qu'il vient de vivre. Le 11 avril dernier, le père Michel Briand, français d'origine, était enlevé à l'est de Port-au-Prince avec 6 autres religieux. Rapt crapuleux que les médias internationaux ont largement couvert jusqu'à ce que tous soient relâchés 20 jours plus tard. Aujourd'hui, pour RFI, le père Briand revient sur sa captivité, sans rancœur, au micro d'Amélie Baron.
Au moment où ils nous ont braqués sur nous, sur la rue, et qu'ils nous demandaient de suivre les autres voitures qui étaient devant nous. Là, on s'est dit, moi, je me suis dit, ça y est, on est kidnappés.
Le 11 avril, Michel Briand et 9 autres personnes se rendaient à l'ordination d'un prêtre à l'est de Port-au-Prince quand des membres du gang 400 Marozo les ont enlevés.
C'est le hasard. Ils prenaient les voitures qui se suivaient les unes les autres. On s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. On n'était pas visé. Ils ne savaient pas qui on était. C'est quand ils sont aperçus que nous autres, on était un groupe constitué, et quand on a vu, effectivement, il y a 2 étrangers à l'intérieur, ça leur a permis, sûrement, de prendre la décision qu'ils ont prise. D'ailleurs, ils ne savaient pas où nous mettre.
Michel Briand est missionnaire en Haïti depuis 36 ans, et il a pu échanger avec ses ravisseurs qui n'ont pas caché leur lien avec la sphère politique.
Ce phénomène est né des politiciens. Députés, sénateurs, qui sont succédés les uns les autres, qui ont favorisé ce gang et protégé ce gang. Est-ce pour assurer un électorat ou bien assurer une certaine sécurité dans leur exercice? Je ne le sais pas. Mais le fait, c'est que les kidnappeurs nous ont dit qu'ils sont nés à partir de la volonté de plusieurs élus de la nation. Donc, à un moment donné, probablement au moment où ils ont perdu leur pouvoir, ils ont largué, ils ont quitté ces gangs. Et les gangs se sont retrouvés sans revenus, sans rien. Et c'est pourquoi ils nous ont dit ça clairement, qu'ils se rabattent sur des vols, ou bien, là, comme le cas qui s'est produit à notre égard, des kidnappings. Ceci pour qu'ils puissent avoir de l'argent, pour faire vivre tous ceux qui travaillent avec eux, et pour pouvoir acheter des armes. Là, ils le disent clairement.
Évoquant sa foi chrétienne, il n'exprime aucune colère vis-à-vis des membres du gang qui l'ont privé de sa liberté pendant 20 jours.
C'est une expérience malheureuse et porteur de joie aussi. Je m'explique. Malheureux parce que, effectivement, c'est jamais agréable de se faire kidnapper et être prisonnier, en quelque sorte, de ces personnes qui nous mettent dans cette situation-là. Une expérience personnelle qui nous a permis, grâce à la prière entre nous, arriver à pardonner à mes agresseurs, enfin agresseurs, ils ne m'ont pas agressé, mais à ceux qui m'ont kidnappé, leur pardonner.
Goûtant sa liberté retrouvée, Michel Briand n'envisage absolument pas de partir d'Haïti.
Pourquoi quitter? C'est pas parce que vous avez eu des brimades par quelques unités personnes haïtiennes que c'est tout le peuple qui te brimade. Non, pas du tout. J'aime le pays d'Haïti, j'aime le peuple haïtien, encore davantage les chrétiens. Ils me montrent toute leur sympathie, leur dévouement. Pourquoi voudrais-je les quitter? Ce serait une trahison de ma part. Non, je ne vois pas du tout et j'envisage pas du tout de quitter le pays.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Haïti gangréné par l'insécurité et les enlèvements quotidiens. Le week-end dernier, 2 gangs de la capitale ont annoncé une trêve. Depuis, des rumeurs ont fait état de versements d'argent par le gouvernement aux gangs concernés. Rumeurs démenties catégoriquement par les autorités qui évoquent un mensonge grossier, comme le rapporte le Nouvelliste.
RFI, The
The World's Voices.
9h15 à Washington, elle a osé s'opposer à Donald Trump. Liz Cheney va en payer le prix fort. La numéro 3 du parti républicain américain devrait, sauf surprise, être évincée de son poste à la Chambre des représentants aujourd'hui lors d'un vote de son camp. La fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, qui avait été l'une des rares à voter la mise en accusation de Donald Trump pour les événements du 6 janvier dernier au Capitole, qui ne cesse depuis aussi la présidentielle de mettre en garde sur les conséquences des accusations de soi-disant fraude. Avant ce vote, hier soir à la Chambre, Liz Cheney a tenu un dernier discours.
L'élection est terminée. C'est l'état de droit. C'est notre processus constitutionnel. Ceux qui refusent d'accepter les décisions de nos tribunaux sont en guerre avec la Constitution. Notre devoir est clair. Chacun d'entre nous qui a prêté serment doit agir pour empêcher l'effondrement de notre démocratie. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de partisanerie. Il s'agit de notre devoir en tant qu'Américains. Rester silencieux et ignorer le mensonge en hardi. Dit le menteur. Je n'y participerai pas, je ne vais pas m'asseoir et regarder en silence que d'autres conduisent notre parti sur une voie qui abandonne l'état de droit et qui se joint à la croisade de l'ancien président pour saper notre démocratie. Les attaques contre notre processus démocratique et l'état de droit donnent du pouvoir à nos adversaires et alimentent la propagande communiste selon laquelle la démocratie américaine serait un échec. Nous devons dire la vérité. Notre élection n'a pas été volée et la L'Amérique n'a pas échoué.
And America has not failed. Liz Cheney, qui n'est pas une voix isolée. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Le New York Times nous apprend ce matin que d'autres élus républicains s'inquiètent de la mainmise de Donald Trump sur son parti.
D'anciens gouverneurs, élus du Congrès, ambassadeurs, en tout plus de 100 personnalités conservatrices s'apprêtent à publier une lettre explosive, prévient le journal. Les signataires menacent de former un nouveau parti si les républicains ne se ressaisissent pas.
En attendant, une majorité d'élus conservateurs de la Chambre des représentants se prononceront donc tout à l'heure en faveur de cette mise à l'écart de Liz Cheney.
Oui, les républicains choisissent ainsi Donald Trump plutôt que la vérité et la Constitution, anticipe USA Today, qui poursuit Liz Cheney et ce que le Parti conservateur ne semble plus accepter, une femme forte, courageuse et sans peur. Mais dans le Parti républicain d'aujourd'hui, il n'y a pas plus grande offense que l'honnêteté, dénonce Jeff Flake, un ancien élu conservateur dans le Washington Post. Le vote sur l'avenir de Liz Cheney est un moment crucial de l'histoire américaine, estime de son côté le New York Times. Il s'agit là d'une exécution publique, bien que symbolique, renchérit le Baltimore Sun. Liz Cheney n'est pas encore politiquement morte, mais les vautours s'attachent déjà à leur bavoir. De son côté, l'éditorialiste de USA Today conclut : les républicains nous envoient ainsi un message sans équivoque. Leur parti est désormais définitivement celui de Donald Trump.
Un point de vue que ne partage pas le Washington Examiner.
Oui, pour le journal conservateur, Liz Cheney mène une guerre personnelle contre Donald Trump au lieu de promouvoir la ligne politique de son parti auprès des électeurs. Or, le parti républicain doit arriver dans l'ère post-Trump sans perdre les partisans de l'ex-président pour avoir de bonnes perspectives d'avenir.
Voilà pour la situation politique aux États-Unis sur laquelle on ne manquera pas de revenir. Un mot, Stéphanie, de l'autre titre qui fait la une, l'escalade militaire israélo-palestinienne, un défi pour Joe Biden.
À son arrivée à la Maison-Blanche, ce conflit ne faisait pas partie des priorités du nouveau président et depuis quelques jours, on voit un Joe Biden plus que prudent, constate ce matin le Los Angeles Times. En effet, poursuit le journal de la côte ouest, le président américain ne veut pas de tension avec Benjamin Netanyahou alors qu'il est en train de renégocier un retour dans l'accord sur le nucléaire iranien auquel Israël s'oppose catégoriquement.
Mais il y a aussi, hein, Stéphanie, des considérations de politique intérieure là-dedans.
Oui, absolument. Joe Biden doit naviguer entre les progressistes du Parti démocrate qui réclament plus des droits pour les Palestiniens et les traditionalistes qui sont pro-Israël. Selon le Los Angeles Times, le président doit également tenir compte de la très étroite majorité des démocrates au Congrès. Toute mesure considérée comme anti-israélienne fournirait aux républicains un argument pour critiquer le président et son parti.
RFI, les voix du monde.
Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional.
Et celui que l'on entend là maintenant, c'est Juan Guaido, le leader de l'opposition au Venezuela, qui propose de nouvelles négociations, Stéphanie, avec le pouvoir du président Nicolas Maduro.
Oui, le Venezuela a besoin d'un accord entre les forces démocratiques, le régime et la communauté internationale, déclare Juan Guaido dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Un accord qui comprend un calendrier pour des élections libres et justes avec un soutien des observateurs internationaux. En contrepartie à un tel accord, estime Juan Guaido, la communauté internationale pourrait lever les sanctions qui pèsent sur le régime chaviste, rapporte le journal El País.
Et comment a réagi Nicolas Maduro?
Eh bien, il estime que Juan Guaido veut maintenant dialoguer parce qu'il est isolé. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président hier soir à la télévision. Des propos repris ce matin par El Nacional. Le chef de l'État ne ferme pas pour autant la porte à un éventuel dialogue, mais prévient que Juan Guaido ne se prenne pas pour le chef d'un pays qui ne le reconnaît pas. De son côté, le nouveau Conseil national électoral, très contesté par l'opposition, a fait savoir hier que les élections municipales et régionales seront organisées simultanément cette année. Le jour des scrutins, en revanche, n'a pas encore été annoncé, rapporte Efecto Cocuyo.
La presse. Avec vous, Stéphanie Schuller, merci. Elle a une aussi ce mercredi, bien sûr, cette nouvelle journée de grève et de manifestation. Colombie, le pays entre dans sa troisième semaine de contestation populaire, contestation qui ne faiblit pas malgré la répression violente des forces de l'ordre. Au moins 41 manifestants sont morts selon le bilan officiel. Clara Luz Roldán est la gouverneure ultra-conservatrice de la vallée du Cauca, dont Cali, épicentre de la contestation et la capitale. Elle estime le recours à la force nécessaire. Écoutez.
Je crois qu'ici, certains organisateurs de la grève ont tout à fait le droit, garanti par la Constitution, de protester de façon pacifique. Mais d'autres forces s'infiltrent dans ce mouvement et provoquent le chaos, se livrent au vandalisme. Les rez-de-chaussée de nos bureaux ont été incendiés. On doit avoir recours à la police dans ce cas pour qu'elle nous protège et qu'elle nous aide, qu'elle mette un terme à ce vandalisme. Je n'accepte d'aucune manière l'usage excessif de la force par la police, mais je ne l'accepte pas non plus de la part des manifestants.
Des propos recueillis par Lucille Gimbert. La répression qui n'arrête pas non plus la protestation à Cuba. Dans un pays où manifester reste interdit, de plus en plus de voix osent s'élever, notamment des voix féminines, pour défendre la liberté d'expression et différentes causes. Quand la contestation passe par les femmes, c'est le dossier du jour. Il est signé Domiti Piron à La Havane.
Les femmes sont en train de donner une grande leçon à Cuba. Ce sont les Cubaines qui feront changer le cours des choses ici. Ces commentaires sur les réseaux sociaux sont des réactions aux récentes manifestations qui ont été principalement menées par des jeunes femmes. Elles sont citoyennes, journalistes indépendantes, artistes. Béatrice Batista se revendique même militante. Sa bataille à elle, ce sont les droits des animaux, pas les droits de l'homme, précise-t-elle. Et pourtant, cela a rendu sa vie très compliquée.
Je ne connais la vie que sous la menace. Depuis 2019, quand nous avons organisé la première manifestation indépendante contre la maltraitance animale à Cuba, les menaces n'ont fait qu'augmenter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face à face. C'est un contexte vraiment hostile parce que non seulement je reçois des menaces contre mon intégrité physique et mes droits constitutionnels sont également bafoués, comme le droit au travail par exemple. De fait, aujourd'hui, je n'ai plus d'emploi et je suis certaine que je n'en retrouverai pas.
La jeune femme travaillait pour l'État. Son militantisme, notamment sur les réseaux sociaux, lui a valu d'être expulsée et elle vit désormais aux dépens de sa famille. Revendiquer ouvertement des droits, quels qu'ils soient à Cuba, est assez rare et nécessite bien du courage. Car s'exprimer, c'est se confronter à un État tout-puissant. La jeune intellectuelle Cindy Ribéry en a fait l'expérience récemment.
Être femme nous rend plus vulnérables parce que la répression est représentée et personnifiée par des hommes. Le monde entier souffre du machisme et du patriarcat. Ça n'est pas uniquement à Cuba. Mais le fait est qu'ici, le discours officiel nie l'existence de ce problème. Parce que l'égalité entre hommes et femmes est censée avoir été naturellement établie par la révolution, comme si l'égalité de genre était un acquis révolutionnaire.
Elle estime que ça n'est pas le cas. Preuve en est, depuis 1959, le pays et quasiment toutes les institutions et instances de l'État sont gouvernées par des hommes blancs, ajoute-t-elle. À Cuba, la discrimination homme-femme existe bien et le machisme ambiant pèse lourd sur ces jeunes militantes. Cindy, par exemple, depuis le 27 novembre, et la manifestation inédite des jeunes artistes devant le ministère de la Culture réclamant plus de liberté d'expression et la fin de la censure, sent une pression de la part de sa famille parce qu'elle est une femme et qu'elle ose s'exprimer dans un pays où l'on ne dit pas ce que l'on pense.
Par exemple, des membres de ma famille, des hommes, me demandent en permanence si j'ai un petit ami. Bien sûr, ils savent que je suis impliquée politiquement dans ces mouvements civiques. Et quand ils me demandent si j'ai un petit copain, ce qu'ils me disent en fait, c'est qu'il vaudrait mieux me chercher un conjoint pour que je pense à autre chose.
Paradoxalement, la jeune femme pense que c'est peut-être justement ce machisme ambiant qui a donné plus de force et de courage aux Cubaines. Lutter pour d'autres droits alors qu'elles se battent pour les leurs serait donc plus simple. Oui, répond Catherine Bisquette, poète et écrivaine assignée à résidence et arrêtée très régulièrement. Elle revendique sa liberté d'expression.
Moi, je sens que j'ai plus de facilité à me confronter à tout cela, aussi parce que cela fait déjà plusieurs années que j'ai affaire au pouvoir politique. J'ai toujours eu confiance dans ma capacité à me battre, pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Et c'est comme ça que j'avance. Je ne laisse personne m'humilier et encore moins me discriminer.
Des jeunes femmes engagées pour acquérir plus de droits pour la société cubaine, qui ont aussi en commun de savoir qu'elles ne sont pas seules et qui savent s'unir. Domiti Piron, La Havane, RFI.
9h26 à La Havane. Pour coller minute par minute à l'actualité, juste un mot pour vous signifier que Liz Cheney, ça y est évincée de son poste de numéro 3 du Parti républicain de la Chambre des représentants aux États-Unis, comme on l'évoquait un petit peu plus tôt. Le vote vient d'avoir lieu.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
Depuis vendredi dernier, 35 membres du service de santé des armées sont à pied d'œuvre en Guyane.
Il y a là des médecins anesthésistes, des infirmiers, des kinés, des aides-soignants, des brancardiers et il s'agit, vous l'aurez compris, d'un renfort temporaire mais bienvenu pour soulager les équipes du service de réanimation du centre hospitalier de Cayenne. Reportage Ocelia Cartès.
On va pouvoir travailler ensemble et ils nous ont aidés toute la nuit.
Jérôme est infirmier anesthésiste et Audrey est infirmière. Ils terminent leur garde de nuit. Lui a 19 ans d'état de service et déjà servi au Kosovo, à Djibouti ou encore en Côte d'Ivoire. Des théâtres d'opérations bien différents de la mission assignée pour ces prochaines semaines.
On apporte notre technicité, notre savoir-faire et... Mais c'est un plaisir aussi pour nous d'être dépêchés justement dans des zones où on n'a pas l'occasion d'aller régulièrement.
Audrey n'a quant à elle connu que l'Afghanistan comme mission extérieure. Ses premières 24 heures à l'hôpital de Cayenne sont enrichissantes.
Parce que arriver dans un hôpital qu'on ne connaît pas, c'est pas facile de prendre ses marques et ils ont été là pour nous et merci.
Le module militaire ouvre une unité supplémentaire avec une capacité de 6 lits pouvant atteindre 8. Bruno est médecin-chef réanimateur en poste à l'hôpital des armées Clermont-Tonnerre à Brest.
On a pu constater que tout le matériel était à disposition et c'est ce qui fait aussi la rapidité de réaction.
Le service de santé des armées a depuis le début de l'opération Résilience été dépêché à de nombreuses reprises en renfort dans l'Hexagone mais surtout en Outre-mer.
La Guadeloupe maintenant avec ce coup de tonnerre à quelques semaines des élections, le placement hier en garde à vue du président du conseil régional, Harry Chalus, soupçonné d'abus de confiance, de complicité de détournement de fonds publics et de financement illégal d'une campagne électorale. Renan Poney.
Pour prouver son innocence et Harry Chalus bénéficie de la présomption d'innocence, le président du conseil régional devra batailler ferme avec une équipe d'avocats. Mais c'est loin d'être gagné. On ne met pas en garde à vue de longue durée un candidat à sa succession comme président du conseil régional de Guadeloupe, issu du parti au pouvoir et proche du président de la République Emmanuel Macron, sans avoir un sacré sac de billes et des preuves. La garde à vue plus discrète du trésorier de l'association et mandataire financier des diverses campagnes électorales devrait apporter un plus. L'homme est également fonctionnaire à la mairie de Bemao, chargé des marchés publics, des relations avec les entreprises, du temps où Harry Chalus était maire. Décidément, le procureur de Basse-Terre, Xavier Sicot, même s'il a plusieurs autres affaires urgentes sur son bureau, est d'une efficacité redoutable.
Affaire à suivre, c'est évidemment le cas de le dire. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci aussi à Claude Battista et Valentin Alves qui étaient à la réalisation aujourd'hui. Le rendez-vous d'Haïti des Amériques est à retrouver bien sûr comme chaque jour sur RFI Pure Radio. L'actualité des Amériques à commenter aussi sur Twitter @RFI Amérique. À demain et bonne journée.